Vienne, 1903. Oui est l'instrument de Dieu sur terre, et pour Little One et son prophète. Les Juifs savent que pour Little One est leur pire ennemi. Il n'est personne que les Juifs haïssent plus que lui. Une nuit d'hiver, il rêve qu'il a été enlevé par les Juifs, si secrètement qu'il a tout simplement disparu sans que personne ne sache ce qui lui est arrivé. Une sorte de sainte véhémence s'apprête à le juger. Il ne fait pas de doute qu'il sera condamné à mort. Seule la méthode reste en débat. Pendu, désossé, écartelé, empalé, haché, c'est une question d'heure. Pendant ce temps, il est enfermé dans une pièce, dans une maison, dans une petite ville d'Allemagne, complètement seul. Il marche calmement de long en large, appelé à l'aide ne servirait à rien. Soudain, il remarque dans un coin de la pièce un téléphone d'un nouveau genre, ressemblant à un long livre vierge. Retournant l'objet dans tous les sens, il entend une voix faible et confuse, dans laquelle il reconnaît tout d'un coup la voix de sa femme. « Allô ? Allô ? » appelle-t-il. Sa femme l'entend, mais ne reconnaît d'abord pas sa voix. Quand elle comprend, très émue, elle manque s'évanouir. « Où es-tu ? D'où m'appelles-tu » demande-t-elle. Il lui explique qu'il est prisonnier des Juifs qui veulent l'assassiner afin de se défaire de leur pire ennemi. « Oui, mais où es-tu ? Je suis à trois petits points, près de trois petits points. » Sa femme a du mal à comprendre le nom et le fait répéter encore et encore. Il commence à s'énerver car c'est sur elle que repose son unique chance de salut. Elle finit par répéter le nom correctement. « Maintenant, lui dit-il, préviens le gouvernement tout de suite, mais en grand secret. Il faut qu'ils envoient la police et l'armée, mais discrètement, afin que personne ne s'en aperçoive et ne le répète ici. Il faut que les troupes prennent le contrôle de la zone d'un seul coup pendant la nuit, car si les Juifs sont avertis ne serait-ce qu'un quart d'heure en avance, ils me tueront sur le champ. » À son grand désespoir, sa femme continue de lui parler. « Oh, je vois tes yeux !» s'écrit-elle. Le téléphone est en fait une sorte de visiophone. Il la supplie d'appeler tout de suite à l'aide, lui explique que tout sera perdu si quelqu'un entre par hasard dans la pièce. Elle finit par partir, il continue d'aller et venir dans la pièce, et se rend compte qu'il pourrait, si besoin, sauter par la fenêtre. Mais il réfléchit cependant que les hommes sont certainement postés à l'extérieur, prêts à l'abattre. Il décide donc d'attendre l'aide, dont il sait maintenant qu'elle arrive. Bon, ça c'est du document pur, hein. ce sont les journaux de Chamberlain, qui était complètement tellement siphonné, qu'il rêvait la nuit qu'il se faisait kidnapper par les Juifs. Bayreuth, 1923. Paul Little One est dans son lit. Il n'en sort presque plus jamais. Parfois, on l'assied dans un fauteuil et on le pousse près de la fenêtre. De l'autre côté de la rue, il y a un jardin où on le transporte aussi parfois quand il fait beau. Les autres jours, la femme du chef d'orchestre lui fait coucou de la main. Quand il s'est débarrassé de sa vieille femme, il n'a pas pu épouser la femme du chef d'orchestre qui était encore plus vieille que sa femme. Alors il a épousé sa fille, qui est aussi la fille du grand musicien de la grande maison au bord du lac. C'est elle qui s'occupe de lui désormais. Un jour, après la fin du monde, on lui annonce qu'il va y avoir une grande fête dans le jardin près de la maison. Ce sera la journée allemande. C'est Winnie, sa belle-sœur, qui a tout organisé. Elle a invité Adolf Hitler, qui veut absolument rencontrer Poor Little One. Poor Little One ne peut plus parler, mais il accepte la visite de ce monsieur Hitler. Quand il est là, il le regarde et il l'écoute. Le lendemain, comme il fait beau, on le transporte dans le jardin, et il serre de nouveau la main d'Adolf Hitler. Après la fête, il lui écrit une lettre pour lui dire qu'à son avis, d'immenses succès l'attendent, et qu'en dépit de sa force, il ne le considérera jamais comme un homme violent. Puis il devient paralysé et aveugle. Quand il meurt, quelques années plus tard, Adolf Hitler assiste très ému à ses funérailles. Willy n'a pas pu venir car il n'a plus le droit d'aller en Allemagne, mais il a envoyé son fils qui s'appelle aussi Willy. Voilà, donc la fin tragique de Chamberlain. Ça m'intéressera de discuter avec vous, je ne sais pas quelle impression ça crée de lire ou d'entendre ça. J'ai tenu évidemment à laisser les choses de la façon la plus brute possible, j'ai pas de théorie, ou alors comme tout le monde, les mêmes théories que tout le monde sur le sujet, mais ce qui est très frappant chez des gens qui sont au fond des criminels dangereux, c'est leur... c'est nous. Enfin, ce sont des gens normaux avec qui on peut avoir, dans certaines circonstances, des conversations normales. Et évidemment, c'est cet aspect-là qui m'intéresse. Et là aussi, le fait de disloquer mon propos en petits chapitres me permet d'aborder les choses sous plusieurs angles différents, sans avoir à me demander si ça tient la route ou pas. Je présente les contradictions telles qu'elles sont et... Il y a toute une sous-intrigue, en fait, une histoire secondaire qui est autour d'un personnage dont j'ai pas encore parlé, je peux vous en parler rapidement, qui est le prince de Glenmour, qui était le confident principal de Guillaume II, et qui était un ami proche de Gobineau. Et le, le prince de Lunebourg était un personnage. Enfin, vous imaginez ce que peut être le meilleur ami de Guillaume II, c'est-à-dire un personnage complètement abject, un militant nationaliste, antisémite, et qui, alors qu'il était au sommet de sa puissance, a été accusé d'homosexualité à une époque où l'homosexualité était punie de prison en Allemagne, et où il y avait un grand nombre de procès. Et ce personnage qui est extraordinairement antipathique et en plus ridicule, qui est vraiment un personnage négatif dans un roman, ben ce personnage connaît une déchéance absolument abominable. Il est traduit devant différents tribunaux pendant des années, alors qu'il est très vieux, jeté en pâture au public. Le tribunal déballe des lettres révélant vraiment les moindres détails de sa sexualité, on l'accuse de tout un tas de choses. Enfin, vous imaginez à quoi peut ressembler un... Enfin, je sais pas si vous imaginez, je sais pas si je l'imagine non plus. J'ai essayé d'imaginer, à quoi peut ressembler un procès d'homosexualité en Allemagne il y a un peu plus de 100 ans. C'est quelque chose d'absolument répugnant. Et il y a même Magnus Hirschfeld, le chercheur à qui on doit le mot d'homosexualité, le premier grand défenseur de la cause homosexuelle enfin dans le monde, disons, qui témoigne au procès pour essayer de savoir si oui ou non le prince de Lunebourg est homosexuel, parce que d'une certaine manière, ça défend sa cause. C'est-à-dire, si des gens aussi bien peuvent être homosexuels, c'est que les homosexuels finalement ne sont pas si affreux, et donc on peut dépénaliser l'homosexualité. Et on se retrouve à avoir ce grand militant de la liberté sexuelle qui va faire le flic dans un tribunal pour essayer d'aider le jury à prouver si Lunebourg est ou non homosexuel. Et donc je me suis mis à avoir énormément de compassion pour ce type. C'est un aspect sur lequel j'ai évidemment eu envie de travailler, voilà, sur la compassion qu'on peut avoir pour un personnage infect. Enfin, bon. Je vais juste vous lire un dernier texte sur Gobineau lui-même. Un texte court qui est un peu une blague. Voilà. Ça s'appelle La Brute, qui est une exploration de ses théories raciales. Oui, j'ai commencé par ça, c'est juste un résumé des chapitres précédents. Je viens de montrer des pages, des passages entiers où Gobineau recopie de façon complètement éhontée ses... Enfin, je dis en termes, je fais la même chose, mais ses prédécesseurs, comme il lui-même n'est pas un scientifique, il a construit en grande partie son traité en repompant le peu qu'il arrivait à comprendre, mais par page entière. Bon. Et donc voilà, je commence par faire remarquer que Gobineau s'écarte parfois de la leçon de ses prédécesseurs. Quand Victor Courté de Lille oppose à la figure d'Apollon ou celle de Minerve, la figure la plus voisine de la brute, l'essai sur l'inégalité des races humaines corrige. Les races sont inégales, mais aucune n'a la brute à côté d'elle. Même le chapitre qui contient les énoncés racistes les plus ineptes précise, ce n'est cependant pas une brute, pure et simple, que ce nègre à front étroit et fuyant qui porte dans la partie moyenne de son crâne les indices de certaines énergies grossièrement puissantes. Le concept de brute a été abandonné par la science, mais les dictionnaires contemporains de Gobineau nous éclairent sur le sens qu'il pouvait lui attribuer. Chez Littré, la bête, considérée dans ce qu'elle a de plus éloigné de l'homme, c'est une brute, se dit un homme qui n'a ni esprit ni raison. Deux siècles auparavant, peut-être égaré par une étymologie fantaisiste du verbe brouter, Furtière précisait, bête à quatre pieds, qui se nourrit en broutant de l'herbe, l'homme n'est distingué des brutes que par la raison, on dit aussi une bête brute, et figurément d'un homme sans esprit que c'est une bête brute. Brute est donc l'animal en tant que privé de raison, il s'oppose à l'humain. En distinguant rigoureusement tous les humains de la brute, Gobineau tranche avec sa désinvolture coutumière un point sur lequel s'affrontaient les naturalistes de son temps. Cette désinvolture est pour une fois bienvenue. L'histoire des sciences naturelles n'est pas celle de savants objectifs et raisonnables, défenseurs d'idéaux humanistes en proie à l'obscurantisme ecclésiastique. La remise en cause du récit biblique de la création a ouvert la voie à une multitude d'hypothèses et de tentatives de classification, où la place attribuée aux différentes variétés de primates répondait souvent de motivations politiques, l'idée d'un continuum du vivant, en même temps qu'elle détrônait les humains du sommet de la création, contribuait souvent à instituer entre l'humain et l'orang-outan des échelons intermédiaires, où les taxonomistes européens étaient beaucoup plus tentés d'insérer de lointains peuples inconnus que leurs voisins de palier. En campant obstinément sur les positions du dogme catholique, Gobineau prive au moins l'esclavagisme d'un de ses arguments. Ce que Gobineau appelle une brute, il l'expose dans la première des charmantes lettres qu'il envoie à sa fille Diane, alors âgée de 13 ans, durant sa deuxième mission en Perse. De sa première étape, Athènes, il lui adresse ses instructions pour son éducation. Vous allez reprendre votre piano à Paris avec un nouveau courage. Ce sera très bien, j'y attache beaucoup d'importance. Mais ne négligez pas la lecture. C'est ce qui sépare une personne bien née du bourgeois, c'est-à-dire de la brute. Voilà. Ben, je vous remercie.